Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Un autre match monstrueux de Derrick Henry qui rappelle à tout le monde que les Titans du Tennessee ont une équipe pour veiller tard. La date limite des échanges approche à grands pas dans la NFL. Qui seront les acheteurs et qui seront les vendeurs? C'est le retour de Jared Goff à Los Angeles cette semaine. Et pendant que les Rams nourrissent des espoirs de retourner au Super Bowl, ben, les Lions de Détroit s'enfoncent dans les bas-fonds de la Conférence nationale avec Goff. Quatrième essai et une verge. On fait quoi? Les coachs de la NFL sur le grill, après des décisions coûteuses. Tout cela et bien plus dans cette nouvelle émission de la Zone payante. Bonjour tout le monde, mon nom est Jean-Nicolas Gagné, bienvenue à la Zone payante. L'épisode de la semaine 7 de la NFL, une troisième saison qui se poursuit avec mes experts Jean Carrier et Stéphane Cadorette, tous deux journalistes et experts au Journal de Montréal et de Québec. Salut les gars!
Salut Jean-Nic, comment ça va?
Très bien, merci. On va commencer, si vous voulez bien, parlons du match du lundi soir, parce que on se disait au début de la saison, les Titans du Tennessee étaient un petit peu, ont eu un début de saison un petit peu houleux. Et là, c'est comme si on est en train de voir un MVP sous nos yeux là, créer une saison dont on va se rappeler toute notre vie.
Ouais, et puis tu sais, ça me fait rire personnellement parce que tu regardes, il y a trois semaines à peine, on aurait fait un décompte d'MVP, on aurait mis 7-8 dans le plat, là, puis Henry aurait peut-être pas été là, mais c'est un monstre depuis, de semaine en semaine, là, c'est complètement ridicule. Là, ça a été sa performance contre Buffalo, mais ça se répète, ça se répète, ça se répète. Il charrie le club sur ses épaules carrément. Puis, tu sais, de nos jours, il n'y en a plus beaucoup des porteurs de ballon qui font ça. C'est très rare. Tu regardes Henry, une avance de 260 verges actuellement.
Incroyable.
Le deuxième porteur, c'est énorme. Il a 10 touchés. Ça, c'est deux fois plus qu'Ezekiel Elliott, qui est le deuxième. Puis, ce que j'aime d'Henry, c'est qu'il est dominant quand ça compte le plus. Puis c'est pas nouveau de cette année, là. Mais écoute, c'est la troisième fois depuis 2019 qu'il gagne au moins 100 verges au sol contre une défensive du top 3. Ça, c'est appréciable parce que c'est pas comme si, tu sais, il y a des mauvaises langues qui pourraient dire, ouais, mais il joue deux fois par année contre les Jaguars, puis tu sais, c'est plus facile. Non, c'est pas ça, là. Il est à son meilleur contre les meilleurs. Fait que, tu sais, moi, je vois Derrick Henry aller, là, puis je me dis, j'ai pas souvenir d'un porteur aussi bien bâti. Tu sais, il est gros, il est grand, mais il a toute la vitesse du monde pour les longs jeux. Il y en a encore eu un de 76 verges face aux Bills. Honnêtement, là, on n'a vraiment pas le choix. S'il n'est pas considéré cette année pour le titre de joueur le plus utile, si sa saison continue comme ça, évidemment, là, ben, tu sais, il sera jamais considéré.
Oui, puis Jean, c'est ça un peu que je me dis. C'est que la mode est au comité de running back là, dans les équipes de la NFL. Puis c'est un peu pour épargner là, les joueurs pour pas qu'ils soient blessés ou pour pas qu'ils ralentissent ou qu'il y ait des grosses périodes creuses. Si Derrick Henry se blesse dans deux matchs là, parce que il est tout seul à courir dans le champ arrière des Titans, est-ce qu'on va le regretter de donner autant souvent le ballon?
Je pense pas, tu sais, je veux dire, ça fait partie de l'ADN maintenant du club des Titans. Moi, ce que je vois aussi, c'est que le monstre à trois têtes quand les architectes de l'équipe ont imaginé avec le receveur AJ Brown puis Julio Jones, ben, ça s'est pas matérialisé encore tant que ça. Julio Jones a été blessé, il revenait d'une blessure. AJ Brown aussi est un peu blessé. Fait que ça a vraiment tout reposé sur Derrick Henry. Puis comme Stéphane le mentionnait, il est capable d'en prendre aussi. Là. C'est un porteur format géant. Évidemment, plus tu fais courir un porteur de ballon, ça se peut que sa carrière soit pas la plus longue, mais de toute façon, les porteurs de ballon, leur carrière ne sont pas longues de toute façon. Fait que autant y donner le ballon puis quand il est dominant, puis plus tu y donnes le ballon, ben, plus il est bon. Il est pas très bon nécessairement au tout début du match. Exact, mais au troisième quart, quatrième quart, ça reste que les défensives sont tannées, je pense, de plaquer un porteur de ballon aussi costaud. Puis honnêtement, il est très, très dominant. Là. Je veux dire, pour le joueur le plus utile, écoute, j'ai fait des petites recherches. Le dernier à avoir remporté, le dernier porteur de ballon à avoir remporté le MVP, c'est Adrian Peterson en 2012. Avant ça, il y en a seulement trois autres là, dans les années 2000. Tomlinson en 2006, Sean Alexander 2005, je me rappelle, ça, j'ai été surpris de voir son nom, mais il y avait eu une très bonne saison là, avec les Seahawks, et le très, très grand Marshall Faulk en 2000. C'est les porteurs. Donc, quand j'ai regardé aussi les statistiques, ça prend des saisons exceptionnelles. Donc, ce qui veut dire pour Henry, pour moi, s'il va avoir une chance, je pense qu'il faut que les Titans continuent leur air d'aller puis finissent avec au moins 10 victoires. Et il faut absolument qu'ils franchissent la barre de 2000 verges. Ça serait peut-être, je pense que ce serait la deuxième fois consécutive en plus qu'ils le feraient.
Oui, puis en plus, Jean, il y a des chances au record.
Oui, oui, ça aussi, il faut pas l'oublier. Puis il y a un match de plus pour le faire. Donc ça rentre en ligne de compte. Donc une saison exceptionnelle comme ça, je pense qu'il faut absolument minimum le considérer. Puis peut-être même y donner, là, tout simplement. Là. Fait qu'on va voir la suite des choses. Évidemment, c'est sûr qu'il va y avoir les carrières qui vont être dans le mix. On va suivre, là, évidemment. Là. Écoute, si le nain en Arizona se calme pas non plus, puis dernièrement aussi, il faut regarder aussi du côté de Baltimore avec Jackson qui est tout feu, tout flamme comme poste de comme carrière. À la limite, on pourrait quasiment dire que c'est un porteur de ballon également. Donc, on va suivre la suite des choses. Mais Derrick Henry, honnêtement, il est, moi, le seul acronyme que il est monstrueux présentement. Monstrueux, c'est vraiment le terme.
OK. Ben, merci, les gars. On va reparler. De toute façon, les Titans qui ont un match cette semaine, si ma mémoire est bonne. Contre qui les Titans jouent, en fait?
Contre les Chiefs.
Ah oui, contre les Chiefs. Alors, c'est un bon
rendez-vous. Pas rien, ça.
Non, on va en parler tout à l'heure dans la prévision, dans la prédiction. En attendant, restez là, parce qu'après la pause, on va parler d'une drôle de scène qui s'est passée à Chicago avec Aaron Rodgers. Bougez pas.
First down to the red cashing.
Right on cue, Joe.
On est de retour à la zone payante. On est dans notre match qui débute. C'est le premier essai. Et Jean, ce qu'on vient d'entendre, c'est Aaron Rodgers qui nargue les partisans des Bears. Est-ce qu'on a vu est-ce que c'était un peu le dernier adieu d'Aaron Rodgers aux partisans des Bears au Soldier Field en fin de semaine qu'on a vu?
Ben, c'est pas impossible. Lui-même s'est fait poser la question après la rencontre, puis il a dit « Je pense pas que c'est ma dernière ici. » Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y en est.
Raconte-nous un peu le contexte dans lequel tout ça est arrivé.
Ben, écoute, c'était... Évidemment, le match est serré. Les Packers sont en fin de match. Les Packers mènent par 3. Donc, évidemment, Aaron Rodgers, sur un jeu, comme il a souvent l'habitude de faire, prolonge le jeu. Les demi-défensifs sont tout près de la zone début. Les demi-défensifs restent évidemment très près là, de leur receveur. Aaron Rodgers décide de courir. S'en va, il vise le coin de la zone début, atteint la zone début. Donc, ça met le match hors de portée. Il mène par plus que 8 points, donc 2 possessions. Il restait peu de temps. Puis là, lui, il dit qu'il a vu une partisane des Bears lui donner le bon vieux finger, les gars. Puis ça a l'air, il a dit c'est un double flipping the bird. Fait que il s'est fait
deux mains.
C'est les deux mains, il s'est fait envoyer promener. Puis il dit une switch a tout simplement viré. Il dit, je sais pas trop ce que j'ai dit, ce qui s'est passé dans ma tête, mais il dit, je voulais leur signifier que c'était encore moi le boss ici.
Mais ça envoie un autre message, moi, je trouve aussi, d'Aaron Rodgers cette saison, c'est que...
Il est en mission aussi, là.
C'est ça. C'est que là, on l'a vu, c'est comme si sa saison démarre, là. Et on dirait que les partisans des Bears ont allumé, là, ont soufflé sur les braises là, d'Aaron Rodgers, puis là, il est reparti. Là.
Écoute, pour ceux qui... C'est qu'Aaron Rodgers aussi, pour les partisans qui sont pas nécessairement au courant, c'est un torsionnaire absolument extraordinaire des Bears. Il est 22 victoires, 5 défaites en carrière contre les Bears. Lui, ce qu'il a dit, ben évidemment, c'est « I still own you ». C'est encore moi le patron aussi. Là. C'est ça que ça voulait dire. Puis, moi, j'ai eu un flash, les gars, quand j'ai vu ça. Puis, c'est l'an passé, avec les stades vides. Tu sais, j'aimais ça voir la NFL, mais c'était-tu plate?
C'était pas pareil. Là.
C'était pas pareil.
Il n'y a rien qui vaut ce qu'on voit actuellement.
Non, non. Puis, c'est ça. Là, les stades remplis, ça fait tellement du bien. Puis, j'ai trouvé que la scène était parfaite. Il y en a qui aiment pas ça nécessairement. Il aurait peut-être dû, ben écoute, il a quand même gagné le match. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Aussi, c'est le fait que si tu veux démontrer un peu d'arrogance, souvent, faut que tu montres l'exemple. Puis Aaron Rodgers, il le fait match après match au niveau performance. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Puis à la limite, c'était drôle un peu, sauf un peu moins si t'es partisan des Bears.
Il faut savoir aussi que Bears-Packers, là, c'est une rivalité qui date pas d'hier. C'est la plus vieille rivalité dans la NFL. Fait que, tu sais, c'est de bonne guerre un peu, là, le dialogue comme ça, si on peut dire, entre les partisans puis les joueurs, tu sais, faut pas s'en étonner. Puis là, qu'un joueur réplique une fois, tu sais, je trouve ça juste, c'est un clin d'œil, en fait, là, intéressant encore plus dans la rivalité.
OK, deuxième essai, Steph, on y va avec toi.
Ouais.
Là, c'est drôle, depuis quelques années, j'ai l'impression que les coachs, ils vont encore... C'est comme Chip Kelly qui a commencé un peu à y aller à 4 et 2 et 3 et 4 même. Là, on dirait que de plus en plus, les coachs, ils vont en quatrième essai. Pas juste à mi-terrain ou pas juste dans le territoire offensif. Là, ils prennent des décisions très risquées. Puis des fois, ça s'avère des décisions coûteuses.
Oui, c'est sûr. Des fois, ça s'avère coûteux. Mais la logique est simple derrière cette réflexion-là, parce qu'effectivement, on en voit de plus en plus. C'est qu'il y a plus de chances que ça fonctionne que de chances que ça fonctionne pas, tout simplement. Écoute, depuis 4 ans, les quatrièmes essais et 1. Tu sais, je te parle pas de quatrième essai et 7 là, dans une cause désespérée en fin de match quand il faut absolument que tu l'ailles. Mais depuis 4 ans, quatrième essai et 1 verge, 68% des conversions sont réussies. C'est pas rien. Là. On parle pas d'un pourcentage minime à 51 ou 52 où tu te dis c'est presque un coup de dé. Tu sais, c'est presque 7 chances sur 10 de réussir. Donc, les coachs se sont mis à arrêter de suivre le livre qui disait « quatrième essai, peu importe, tu dégages ». Tu sais, les chances que ça rapporte un gros, gros coup, on l'a vu depuis le début de la saison avec les Chargers, même si cette semaine, ça s'est retourné contre eux, là, c'est vraiment plus important que les chances de rater. Puis, tu parlais là, que c'est partout sur le terrain, puis ça, c'est vrai. Profondément dans leur zone, ça s'est pas encore vu, mais on voit là, quand même à la ligne de 20, à la ligne de 24, des équipes dire « ben non, j'y vais ». En se disant, je sais pas, moi, tu dégages, il y a un retour de 10-15 verges de l'autre côté, ils sont déjà à 20 verges d'une situation de placement des fois. Donc, il y a de plus en plus de coachs qui voient ça comme ça là, et non plus comme la bonne vieille bataille du placement, du positionnement sur le terrain. Là.
Ouais.
Puis, si tu amènes la question, ben, j'imagine que c'est aussi en lien avec le cas des Bills. Là,
bien sûr, lundi, les Bills qui ont décidé d'y aller à 4-1 alors qu'ils auraient pu égaliser le match avec un placement dans les dernières secondes du match.
Bon, c'est ça. T'as bien résumé là, comment ça se passait à ce moment-là. Puis il y en a beaucoup qui sont en train de lancer des rushs à Sean McDermott en disant « t'aurais dû aller chercher les 3 points ». Je comprends, mais si Josh Allen réussit la faufilade du corps, ben soudainement, McDermott, c'est un génie. Donc, j'ai de la misère en ce moment, moi, à envoyer les coachs aux poubelles quand ils vont sur un quatrième essai et court. Écoute, la décision des Bills, plus spécifiquement, puisqu'on en parle, en carrière, Josh Allen avait 13 conversions en 14 tentatives lors de courses sur des quatrièmes et 1. 13 en 14. La seule fois que ça avait raté, c'est pas lui qui avait raté son coup, là, c'était une mauvaise remise en 2018. Puis tu sais, Allen, des faufilades du corps, il en a fait une puis une autre. Là. Depuis 2018, il en a réussi 24 qui ont donné des premiers jeux. C'est un sommet. Il n'y a pas un autre corps dans la ligue qui en a fait plus. Là. Donc, les chances que ça rate, honnêtement, étaient infiniment minces. Ça a raté. Mais moi, j'aime ce que McDermott a dit après le match. Là. Il a dit, écoute, si t'étais à refaire, ce serait exactement la même chose.
Ben oui, je pense que la décision était bonne.
L'exécution, elle l'était pas.
Mais exact.
On se pose toujours la question, par exemple, si ça avait été le match du Super Bowl, est-ce qu'il aurait fait le même call?
Ben là, c'est une excellente question, puis ça va dépendre
de chaque coach. Parce que c'est facile de caller 4-1 quand t'es 4, ouais. T'affiches en quatrième essai, quand t'affiches 4 victoires, une défaite, puis que la saison est longue, tu as le temps de te reprendre.
C'est un bon point que t'amènes, puis je pense honnêtement que les coachs sont capables d'avoir du contexte là, dans leurs décisions. Tu sais, je vais laisser Jean qui semblait avoir un point, mais je suis convaincu que ces gars-là le font dans un contexte qui leur permet de croire avec les données analytiques dont ils disposent maintenant que c'est la chose à faire au Super Bowl. Est-ce que ce sera les mêmes décisions? Ben, tu sais, on est permis d'en douter, là. Mais actuellement, dans la saison, là, on va le voir puis on va le voir de plus en plus.
Exact. Mais le point que je voulais amener, c'est souvent ces situations-là sont discutées à l'avance. C'est pas pendant le match à chaud que la décision se prend. La décision a été prise bien avant. Eux, ils ont évalué, les entraîneurs évaluent toutes les situations possibles, puis dans lesquelles on y va, dans lesquelles on y va pas. Puis il y en a beaucoup qui, évidemment, se basent sur les données analytiques pour le faire. Donc, c'est souvent des décisions qui ils s'enlèvent tout simplement le côté émotion du match parce que c'est décidé à l'avance. Des fois, par contre, il y a des petites choses aussi qu'il faut prendre en ligne de compte pendant un match. Dans le cas ici, soit en prolongation. Ben c'est sûr que t'as le côté hasard du lancement là, de la pièce qui va décider qui va avoir le ballon en prolongation. Puis de la façon qu'Henry courait, ben c'était pas clair que les Bills auraient eu le ballon de nouveau. Ça que ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Puis moi, je veux juste dire que où est-ce que ça a parti un petit peu, j'en ai que tu as mentionné Chip Kelly. Oui, Chip Kelly, ça a été une des personnes qui a été agressif là-dedans puis qui a fait changer un peu les mentalités, mais c'est pas le seul. Puis le premier vraiment qui a changé ça, c'est un coach du secondaire qui s'appelle Kevin Kelly en début des années 2009-2010, même un peu avant ça. Lui, il coach en Arkansas, puis il vient d'une petite école secondaire, puis il y avait des petits joueurs, puis se demandait comment prendre avantage avec ces petits joueurs pour les aider à gagner. Ben écoute, lui, il a décidé de plus jamais botter.
Ouais, je me souviens de cette histoire-là.
Ouais, c'est ça vient de lui tout simplement. Avec lui, c'est le coach qui botte pas tout simplement, qui va pour deux à toutes les occasions, et aussi qui fait des bottes courts à chaque fois qu'il peut le faire. Donc c'est comme ça que lui il a réussi à quand même gagner 9 titres en 18 saisons avec cette mentalité-là. Puis il a été étudié beaucoup par les coachs de la NCAA, puis beaucoup également par les coachs de la NFL. C'est quand même pas rien. Quand t'es un petit, tu sais, quand t'es un entraîneur du secondaire, puis il y a des gars comme Bill Belichick qui vient te voir pour savoir c'est quoi ta stratégie, puis pourquoi tu fais ces choses-là. Il y a beaucoup de coachs de la NFL qui sont allés le voir directement là-bas. Donc c'est un peu parti de là. Changement de mentalité, ça se fait pas du jour au lendemain, mais selon moi, c'est une des personnes qui a vraiment aidé à changer un petit peu le fil puis la façon de penser.
Puis tu vois, on critique les coachs qui sont allés là, cette semaine pour des quatrièmes essais qui n'ont pas fonctionné, mais tu prends le contraire. Bill Belichick puis les Pats, justement, puisque c'est un nom que tu amenais comme ça, ils ont eu 4 situations contre les Cowboys, un match très serré, là, 4 situations de quatrième essai et 4 verges ou moins à faire. À chaque fois, ils ont dégagé. Puis ce que ça a donné, c'est que 3 de ces 4 dégagements-là ont résulté en points des Cowboys tout de suite sur la séquence d'après. Donc, il y a un risque aussi là, à dégager dans des situations de quatre et court.
OK. Troisième essai maintenant, les gars. On s'approche en tout cas de la date limite des échanges. Là, dans la NFL, évidemment, la date limite des échanges, on dirait que plus les années avancent, plus il y a des échanges. Parce que moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à suivre la NFL, là, j'apprenais que la date limite des échanges, c'était hier. Là,
ouais, il n'y avait rien. Il n'y avait jamais rien.
On ne pas grand-chose. Là, on dirait qu'il y a de plus en plus. Là, il y a un petit peu d'effervescence. Il y a des équipes qui voient des opportunités puis qui attendent plus au repêchage pour faire des échanges. Et là, on va avoir 6 semaines de passé, 7 semaines, 8 semaines, puis on va devoir prendre des décisions. Qui sera les équipes qui vont devoir mettre un peu le pied sur l'accélérateur pour espérer se rendre en série puis peut-être remporter le Super Bowl? Puis qui devra oublier ça pour cette année? puis qui ont du matériel à échanger.
Une des personnes que on entend beaucoup de rumeurs présentement, c'est les Browns puis Odell Beckham Jr. Dans le cas des Browns, on entend des rumeurs, pas nécessairement parce que c'est pas un club de playoff, quoique là, ils sont un peu dans le trouble parce qu'ils jouent 500, puis ils sont très maganés. Mais dans le cas d'Odell Beckham Jr., on se demande vraiment s'il est si important que ça dans l'attaque des Browns.
Mais il vaut-tu encore quelque chose?
Ben oui, honnêtement. Il
y a une valeur.
S'il est en santé, c'est plus ça aussi, parce que lui aussi, il a été souvent blessé.
Je fais juste une parenthèse, mais on dirait que des fois, on se surprend comment que les joueurs dont on connaît bien le nom, dont ils ont eu des grandes années puis qui sont encore jeunes, mais finissent à être échangés pour un choix de cinquième ronde.
Oui, ouais. Mais ça dépend toujours de la valeur réelle. Mais tu sais, moi je regarde qui pourrait être acheteur. Ben, il y a plusieurs clubs qui pourraient être acheteurs pour Odell Beckham Jr., surtout si ça coûte pas un bras puis une jambe. Mais tu sais, puis il y a beaucoup de personnes qui pensent que les Packers pourraient être intéressés. Mais là, fait juste imaginer un duo avec Aaron Rodgers, avec d'un côté Devante Adams, avec Odell Beckham Jr. de l'autre côté, ben évidemment, ça en fait saliver déjà plusieurs. Puis moi, je pense que dans un système où ce qui est, je pense qu'il est un peu plus offensif au niveau aérien, ça pourrait favoriser justement le retour d'Odell Beckham Jr. en force. Ben c'est sûr que c'est à considérer, là. Ceci étant dit, il y a quand même d'autres joueurs, d'autres concessions aussi là, qu'il faut regarder. Moi, je regarde les Vikings. Les Vikings, pour moi, ont une excellente équipe. Ils ont besoin de renfort un petit peu à certains endroits. Est-ce qu'ils vont être acheteurs? Est-ce qu'ils vont être vendeurs? Ils jouent 500. Je pense qu'ils sont revenus.
Ils jouent 500, puis on le dit depuis le début, ils devraient être même mieux positionnés que ça encore.
Exact. Donc, eux, ils pensent certainement qu'ils ont peut-être accès aux séries. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ce club-là. Je suis certain que Stéphane, t'as d'autres suppositions également.
Oui, ben c'est ça, tu sais. Premièrement, date limite des échanges là, pour le bénéfice de ceux qui se posent la question, c'est le 2 novembre à 16h. Fait que ça s'en vient à grands pas. C'est quand même rare. Il y a eu des mouvements dans les dernières années, des échanges intéressants, mais des échanges qui ont complètement transformé un club, ça arrive plus si souvent que ça, là, quand même. Parce que ça demande un temps d'adaptation aux joueurs qui arrivent dans sa nouvelle équipe. C'est comme on voit beaucoup, est-ce que les Texans vont échanger de Sean Watson? Possible, mais moi, je continue de croire que ça se fera pas là, en pleine saison, alors qu'il y a des démêlés avec la justice dont on ne sait pas encore les issues. Ça reste à surveiller. Il y a des clubs, là, évidemment, moi, je pense aux Texans qui pourraient vendre le peu de ressources qu'ils ont. T'sais, si les Texans, par exemple, décidaient d'échanger Brandon Cooks, bon, en ce moment, il est en santé, ce qui n'a pas été toujours le cas. Sa valeur est quand même bonne parce qu'il continue de produire des chiffres intéressants malgré la piètre qualité de cette équipe-là autour. Est-ce qu'un club comme les Chiefs, par exemple, pourrait dire, nous autres, on a moins de profondeur au poste d'ailier espacé en arrière de Tyreek Hill, on a perdu Sammy Watkins, est-ce que ça pourrait être un complément? Il y a des histoires comme ça là, qui peuvent arriver. Je vois un club comme les Cowboys, qui ont une grosse équipe. On voit
qu'est-ce qui leur manque, les Cowboys, pour la fun?
C'est ça, on voit les exploits de Trevon Diggs, mais ça masque le fait que la tertiaire n'est pas super dominante en dehors de lui.
Trevon Diggs, il ne faudrait pas que ça lui monte à la tête non plus, Diggs, là, de faire des interceptions, parce qu'il reste qu'il s'est fait battre quand même tout de suite après avec un double move. Là. C'est un jeune, ça reste un...
Ouais, ben c'est ça. C'est un joueur de deuxième année. Fait que, tu sais, à un moment donné,
il faut de l'expérience un peu.
C'est sûr qu'il va se faire déculoter à tout bout de champ quand même. Là. Fait que, tu sais, de l'aide dans tertiaire, les Cowboys, moi je dirais pas non. Puis je vois les Chargers aussi, mais tu sais, on voit des situations maintenant, c'est d'aller trouver le bon joueur. Les Chargers qui ont encore une bonne équipe, moi je me laisse pas berner là, par la défaite écrasante qu'ils ont subie. Ça reste un bon club. Mais il manque vraiment quelque chose au niveau de la défensive contre la course. Mais maintenant, les Chargers, ils commencent à peine une fenêtre là, dans laquelle ils vont dominer là, pendant les prochaines années. Est-ce que tu vas hypothéquer ton avenir tout de suite à ta première année de ta fenêtre pour aller chercher un gars? Il y a toutes ces questions-là compliquées qu'il faut que
les équipes OK, mais je vous en pose une autre question. Moi, si les 49ers perdent contre les Colts en fin de semaine, est-ce qu'ils deviennent des vendeurs ou des acheteurs, les 49ers?
Jimmy G encore là, il n'y a pas beaucoup d'équipes, là, Jean-Nic, qui vont faire des moves pour un corps arrière en pleine saison. T'sais, on lisse souvent là, des grandes listes de rumeurs à gauche, à droite, puis ça finit qu'à date limite, ben, il y a quelques moves, mais c'est quand la dernière fois qu'un corps arrière d'importance a été échangé? C'était lui, justement, là, il y a quoi de cela? 5 ans environ? Puis sinon, il faut que tu remontes à Carson Palmer l'année qui avait été échangé aux Raiders. Ça remonte à loin. C'est pas souvent qu'on voit ça, particulièrement un corps arrière là, en cours de route.
Puis il faut qu'il y ait une demande aussi pour Jimmy G. Je suis vraiment pas convaincu qu'il y a une demande présentement pour lui. Là.
Non, exact.
Puis si on s'en va, mettons, en Caroline. La Caroline, on dirait qu'il y avait un début de saison qui était optimiste. Puis là... Ça s'en va pas dans le bon sens. Est-ce que eux aussi de. Parce que McCaffrey, à un moment donné, aussi, c'est un excellent joueur qui pourrait avoir une grande valeur pour rebâtir, pour commencer une reconstruction sérieuse.
Oui, encore là, il a été blessé toute l'année passée, il a joué 3 matchs. Cette année, ça commence à être inquiétant aussi. Ils viennent le mettre sur le injury reserve, c'est-à-dire qu'il va rater au moins les 2 prochains matchs. Il y a une tendance lourde là, qui est en train de s'installer. T'sais, je veux pas être rabat-joie sur les échanges. Il y a plein de noms qu'on verrait s'en aller à gauche, à droite, renforcer d'autres équipes. Mais la réalité, c'est que ces équipes-là vont regarder un Christian McCaffrey se dire, OK, on a le potentiel de mettre la main sur un joueur dominant, mais qui a pas été disponible beaucoup dernièrement. Là. Est-ce qu'on s'en va prendre ce risque-là puis donner un choix de première ou deuxième ronde, là, exemple? Il y a vraiment des questions à se poser.
Parce que une équipe comme les Cardinals d'Arizona, mettons, là, est-ce qu'ils sont confiants avec Chase Edmonds qui peuvent se rendre jusqu'au Super Bowl puis battre des équipes comme Tampa Bay pour se rendre à leur objectif? Ça va leur prendre de l'aide au sol, eux autres aussi.
Ben, la formule actuellement, là, c'est un peu ce que les Chiefs faisaient en 2019, c'est-à-dire on a un comité de porteurs, là, eux autres, tu vois, c'est James Conner puis Chase Edmonds. Ça fonctionne relativement bien. C'est pas le principal ingrédient de l'attaque de l'équipe, là, disons-le comme ça. Mais est-ce qu'ils voudraient absolument augmenter là, leur production dans le champ arrière? Peut-être, mais ça n'a pas l'air d'être une équipe construite en ce moment pour aller en ce sens-là. Fait que c'est la décision qu'il faut qu'ils prennent. Est-ce qu'on change un peu notre vision des choses en plein dans une saison où on est invaincu puis tout va bien? Ou on reste avec la formule actuelle, avec un champ arrière en comité où les choses se passent pas nécessairement mal. C'est peut-être pas dominant, mais ça va bien. Il y a beaucoup d'équipes dans ces cas-là qui vont opter pour le statu quo.
Puis dans le cas des Cards, faut pas oublier que Kyler Murray prend une part aussi de lui de l'attaque au sol.
Mais est-ce que c'est ça que tu veux aussi comme coach? Là, il faut que tu le protèges si tu veux lui faire jouer 17 matchs puis des matchs de série.
C'est un pensée-y bien, mais moi, je pense que dans le cas des Cards, la façon que l'attaque est faite, il faut que tu assures un minimum au niveau de l'attaque au sol. Puis je pense que c'est ça qu'on voit présentement. Donc, j'ai pas nécessairement de problème un peu avec ça. Mais c'est sûr que si tu me dis, si tu leur dis, ben écoute, on va vous donner un CMC pour pas grand-chose, ben, il n'y a pas un club.
Non, là, c'est sûr.
Il n'y a pas un club de NFL qui lèverait pas en main.
Là. Dernière question là-dessus, les Rams, leur attaque semble être très électrisante, là. Puis je comprends qu'ils ont eu un bon match en fin de semaine, mais est-ce que leur défensive peuvent les mener aux grands honneurs aussi? Est-ce qu'il y a de la compétition là, autour d'eux? Là.
Oui.
Là aussi, ils ne devraient pas investir un peu dans la défensive pour se rendre au Super Bowl?
Ben moi, je pense qu'ils ont déjà investi présentement. C'est juste que la défensive ne joue pas à son plein potentiel encore, selon moi. Je pense que c'est dans les clubs les mieux équilibrés de la NFL, comme on a déjà parlé. Fait que moi, je vois pas nécessairement de problème présentement. Ils ont des blessures un peu dans la tertiaire et dans la défensive. C'est ça que je pense, selon moi, qui explique un petit peu le rendement qui est un peu inférieur. Mais j'ai pas vraiment de problème là, quand tu regardes l'alignement. Puis dans le cas des Rams, ils peuvent pas donner grand chose à part des joueurs parce que les joueurs pêcheurs.
Ils n'en ont plus. Parce qu'ils ont tout donné justement pour des joueurs d'impact. T'sais, ils l'ont fait eux autres le gros move avec Jalen Ramsey il y a quelques années. Il y a un moment donné, tu peux pas te permettre de faire ça chaque année. Il y a une banque de choix. Puis écoute, s'il te reste un choix de 4e ronde à donner, tu vas avoir quoi pour ça? Là? C'est pas dit que tu vas avoir un joueur d'impact.
OK, merci les gars. On va se laisser là-dessus. On va revenir après la pause pour notre 4e essai. Et on va rejouer à notre jeu de la semaine passée que vous avez tant apprécié. Que diriez-vous à... Bougez pas. OK, quatrième essai, les gars, on est de retour. On est à la zone payante en compagnie de Jean Carrier et de Stéphane Cadorette. Messieurs, je vous pose la question parce que c'est de la tradition, mais qu'est-ce qu'on fait au quatrième essai à la zone payante?
Nous autres, ça fait longtemps qu'on a regardé les stats avancées.
On est des visionnaires.
Visionnaires.
On a fait un camp avec l'entraîneur dont Johnny parlait tantôt.
Exact.
Nous autres, un camp spécialisé de 3 jours avec lui, fait qu'on ne botte pas.
OK, donc on y va et on va jouer à notre jeu. Que diriez-vous à Jared Goff?
Ben, fais tout ce que tu peux pour augmenter ta valeur ou garder ta valeur, mais ça va être tough, puis sois patient.
Ouais, moi je dirais, prends ton mal en patience, mon chou, parce que t'es vraiment placé dans une situation d'agneau sacrifié à Détroit, là, t'sais. Je comprends, j'ai vu les échos là, de Dan Campbell, entraîneur-chef, qui dit qu'il va falloir que Goff nous en donne plus. Je suis d'accord là, que Goff, c'est pas une grande saison jusqu'à maintenant, mais écoute, regardez à qui il lance le ballon, les gars. Là. C'est pas évident. On l'a pas mis dans une position où il allait réussir. D'autant plus qu'on dit toujours de Goff depuis qu'il est arrivé dans la NFL. C'est un gars de système, c'est un gars qui fonctionne bien quand autour de lui tout va bien, qui est très bien entouré. On l'a vu, il a eu du succès quand même avec les Rams, mais c'était dans une position très avantageuse. Et là, tu l'amènes à Détroit, puis c'est lui qu'il faut qu'il charrie l'équipe.
Ouais.
Désolé, là, c'est pas ça, Jared Goff.
Non, je comprends. OK. Que diriez-vous au responsable de l'infirmerie des Ravens de Baltimore?
Ben, moi, ouais. Je dirais, si t'as envie de te plaindre, regarde autour. Il y a les Browns, il y a pas mal pire que toi.
Moi, je dirais, c'est pas grave. Prends ton temps avec les blessés. Il y en a juste un qu'il faut qu'il reste en santé, c'est Lamar Jackson. C'est tout.
Bon point, parce qu'ils ont 17 joueurs en ce moment à l'infirmerie, les Ravens, mais ils sont quand même 5 victoires, une défaite. OK, que diriez-vous à Matt Nagy?
Hey, juste en passant, je pense oui. Que les Browns sont rendus à 20 ou 21 sur l'infirmerie. C'est quand même quelque chose, ça aussi. Matt Nagy...
L'entraîneur des Bears de Chicago.
T'sais, ils sont
rendus 3-3, là.
Oui, mais l'attaque, je continue de ne pas croire à ce club-là. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'à la longue, Justin Fields va prendre en confort et en maturité. Là. Mais tu sais, je lui rappellerai, moi, Nagy, depuis que tu es en poste, l'attaque des Bears a fait 21e, 29e, 26e et 32e cette année. Donc, il fait clairement pas le travail.
Je continue ton travail. C'est magnifique ce que tu fais. C'est un don de toi parce que tout le travail que tu investis présentement dans Justin Fields, c'est quelqu'un d'autre qui va en
faire. Oh, ça, c'est chiant.
Très bien, non, j'adore ça, Jean, t'as raison. Ouais. C'est de la dévotion. Là. Il est en
train
de travailler
clair.
Pour le succès de quelqu'un d'autre.
Tellement clair que c'est ça qui va arriver.
Qu'est-ce que vous diriez à Trevor Lawrence?
Ben moi, je dirais que, écoute, tes performances me rassurent de plus en plus. Tu viens de connaître un deuxième match d'au moins 300 verges, mais surtout, tes erreurs flagrantes de début de saison sont quand même beaucoup moins fréquentes. Puis si j'avais un conseil à y donner, même si je suis loin d'être le corps arrière que Trevor Lawrence peut être, c'est de pas hésiter à courir. C'est peut-être le seul volet qu'on n'a pas vu beaucoup de lui. Là, quand je compare à ses belles années à Clemson, c'était un athlète extraordinaire, ce l'est encore, mais on le voit très peu souvent là, se servir de ses jambes. Faut pas qu'il hésite à aller chercher des premiers jeux de cette façon-là.
Je dirais tout simplement, continue de la façon que tu es présentement parce que, selon moi, ton développement, ça va bien. Puis je pense qu'on voit que le plafond est immense avec Trevor Lawrence.
Si t'étais Urban Meyer, qu'est-ce que tu dirais à Trevor Lawrence cette semaine? Merci d'avoir gagné une game et d'avoir changé de sujet, d'avoir mis nos partisans de bonne humeur.
Ben, Urban Meyer a toujours pas gagné aux États-Unis, soit dit en passant.
Oh, c'est vrai. Bon point. Qu'est-ce que vous diriez à Lamar Jackson?
Moi, je dirais que je suis content de voir que tu as pu gagner un match sans être le super-héros qui doit tout faire, tu sais, parce que depuis le début de la saison, moi, c'était une question que je me posais, à quel point cette formule-là peut durer. Puis ce que les Ravens ont fait contre les Chargers, c'est vraiment un match équilibré, du bon jeu au sol, pas juste avec Jackson. Il n'a pas été le meneur de son équipe au sol pour une rare fois. La défensive, surtout, qui s'est réveillée. Donc, je lui dirais, je suis content de voir que ton équipe autour de toi s'est ralliée puis que tu n'es pas tout seul dans le bateau.
Moi, je veux juste dire merci parce qu'on n'a jamais vu, je pense, un carrière comme Lamar Jackson dans la NFL qui court aussi souvent dans un système comme lui qui est vraiment bâti autour de lui. C'est différent, ça fait... Moi, j'aime ça voir évoluer les Ravens, même si c'est un club que j'aime pas tant. Mais j'aime ça le regarder, je trouve que c'est le fun à voir. Fait que je dis juste merci Lamar.
OK, qu'est-ce que vous diriez à Brian Flores, l'entraîneur des Dolphins, qui a vu son équipe perdre contre une équipe qui n'avait pas de victoire depuis 20 matchs?
Honnêtement, moi, je suis pas certain que je voulais dire quelque chose parce que je l'ai vu après le match puis il est pas content puis il me fait peur un peu, Brian Flores. Là. Je suis pas certain que je... Honnêtement, moi, je l'aurais évité. Je dirais vraiment absolument rien. Je dis rien. Je
le vois dans le corridor. Tu serais pas assis à côté de lui dans l'avion.
Je le vois dans le corridor, je baisse les yeux puis je m'en vais là. C'est tout, là.
T'aurais pas pris son siège à côté de lui dans l'avion en revenant de Londres, là.
Je pense pas, non.
C'est drôle que tu dises ça, Jean, parce que honnêtement, moi, j'y parlerai pas non plus, mais pas pour les mêmes raisons. C'est que j'ai aucune idée en ce moment quoi lui dire. Je vois pas les solutions. Je comprends pas ce qui se passe avec cette équipe-là. C'est quand même un club qui a gagné 10 games l'an passé. Là. C'est quoi le problème? C'est-tu vraiment juste la ligne offensive? Il y a certainement d'autres choses que ça. Je vois juste plus les solutions.
Le bruit court à Miami qu'il n'y a plus personne qui gère là, puis que vraiment là, c'était un mess. Là.
En tout cas, je saurais tout simplement mais pas quoi lui dire en ce moment parce que ça déraille à peu près.
La défensive n'est pas l'ombre d'elle-même non plus. Là, c'est non. Ça, là, parce que oui, la ligne offensive est horrible, mais au dernier match contre les Jags, elle a fait quand même un boulot correct. Là. L'attaque a été correcte. Défensivement, ça a été très ordinaire.
Et pourtant, ils n'ont pas été souvent sur le terrain. C'est ce qu'on reprochait des fois. Ils étaient toujours sur exact. Le terrain. Mais là, ils ont eu des longues drives puis ils avaient le temps de se reposer. C'est pas une excuse. Ils manquaient les deux demi de coin, évidemment, vedette, Baron Jones puis Xavier Howard. Là, mais...
Ouais, mais tu sais, il y a des...
autant. C'est ça, c'est pas beau présentement qu'est Dolphins. C'est vraiment pas beau.
OK, que diriez-vous à ceux qui ont dans leur pôle et qui se fient sur Dak Prescott, qui sortait avec une botte à la fin du match?
Ben, je dirais félicitations, premièrement, pour votre début de saison là, avec Dak Prescott. Les choses vont bien. L'équipe semble optimiste. Là. Écoute, on ne sait jamais dans ces situations-là, mais faut dire que les Cowboys tombent en bail. Ça pouvait pas mieux tomber, on s'entend. McCarthy disait, l'entraîneur-chef, qui est très optimiste de voir Dak à la semaine 8. T'sais, il a pas laissé planer beaucoup de doutes jusqu'à maintenant. Donc, oui, aller chercher du renfort dans votre fantasy, c'est correct, là. Mais je pense pas non plus qu'il faut virer si elle est terre. Là. J'ai l'impression que Dak va revenir et qu'il va continuer ses miracles.
Ouais, Dak, occupe-toi de ton corps puis fais tout ce que la physiothérapie te demande de faire parce que il y a beaucoup de monde qui ont besoin de toi.
OK, question quiz, les gars. Une facile cette semaine parce que il y a pas grande histoire cette semaine quand même dans la NFL, dans les matchs. À part peut-être, on le disait tout à l'heure, le retour de Jared Goff à Los Angeles qui a mené, faut quand même le reconnaître, là, son équipe au Super Bowl, même s'ils ont perdu en finale. Mais avec Jared Goff, j'ai oublié, voyons, le nom de l'entraîneur des Rams, Sean McVay. Sean McVay a eu Jared Goff comme corps arrière et sa fiche avec Jared Goff, c'est 42 victoires, 20 défaites avec Jared Goff comme corps arrière. Mais Jared Goff sans Sean McVay, combien de victoires, d'après vous, il a remporté?
Zéro.
Zéro victoire, 13 défaites, c'est la fiche...
Ouais,
de Jared Goff.
Il y avait eu Jeff Fisher quelques matchs là, ouais. avant que Sean McVay arrive. Ouais, c'est ça, c'est pas très éloquent.
C'est pas très éloquent, ça en dit long aussi sur peut-être...
J'ai vraiment aucune idée comment Jeff Fisher a gardé son travail aussi longtemps comme entraîneur-chef dans la NFL. Aucune idée. Là.
Mais en tout cas, Jared Goff, ça reste que c'est un premier choix repêchage, si ma mémoire est bonne. Là.
Premier au total.
C'est quand même incroyable là, que ça soit un gars. Est-ce qu'on va le mettre dans la catégorie des busts à la fin de sa carrière s'il réussit pas à à quitter Détroit pour une équipe gagnante puis finir sa saison?
Non, moi je c'est pas un bust parce qu'il est quand même dans la NFL puis tu sais il est partant. Mais pour un choix de premier au total, c'est un échec. C'est ça qu'il faut aussi se constater. Un choix aussi haut, tu peux pas te tromper. Puis dans le cas de Jared Goff, ben, ça a pas accompli ce que les Rams avaient en tête, tout simplement. Steph, t'es-tu sûr que c'est le premier au total, là, Jared Goff?
Il me semble que oui, là, oui, mais
aussi, ça serait... On va vérifier, mais on va revenir après la pause, mais moi aussi, je suis pas mal sûr que oui, c'était un premier show total. On va vérifier, puis de toute façon... Restez là, parce qu'après la pause, on passe au match de la semaine de la NFL avec nos prédictions, avec nos experts. Bougez pas. On est de retour à la zone payante en compagnie de Jean-Claude Gagné et mes deux experts, Stéphane Cadorette et Jean Carrier. OK, les boys, c'est la semaine 7. On est en plein milieu de la saison. Tout va bien.
Très rapidement, la semaine passée, Jean-Nix, les deux, on est 10-14. Donc, quand même pas une mauvaise semaine. Stéphane, 64-94 jusqu'à maintenant, 68%. D'efficacité. Je reste encore à 7 bonnes prédictions de Stéphane. J'étais à 61%. Donc, les deux, on est en haut de 60. Mais dans le cas de Steph, il s'approche dangereusement du très bon cap de 70%.
Oh yes, il faut que ça continue.
OK. On commence avec le match de jeudi. C'était Browns qui jouent jeudi, Jean, contre les Broncos.
Ouais, c'est quel club des Browns?
Des Broncos aussi, hein?
Ouais, je trouve que les Browns sont vraiment maganés. On sait pas encore si Baker Mayfield, alors où on se passe, c'est lui qui va être le carrière. Par contre, si c'est pas le carrière, je trouve pas qu'ils sont, tu sais, je trouve que le substitut est correct. C'est Case Keenum. Il est capable d'avoir un match dans le système des Browns là, qui est décent. C'est D'Ernest Johnson qui va être le porteur de ballon parce que Nick Chubb et Kareem Hunt seront absents aussi. Donc, c'est quand même deux autres joueurs importants qui seront pas là. Puis la ligne à l'attaque est un peu maganée. Ceci étant dit, quand je prends tout ça en considération, ma tête me dit de prendre Denver. Moi, je vais y aller avec mon cœur cette fois-ci. Puis je pense que les Browns vont... ont besoin d'une victoire absolument. Ils ont besoin d'un repos après le match surtout. Donc je pense que ça va être horrible, ça sera pas beau, mais ils vont remporter le match.
J'ai une bonne idée d'y aller avec son cœur, Steph, toi.
Moi j'ai les Broncos pour les raisons que j'ai en donné. Là, je pense que tu as fait le tour principalement des blessés, mais le pire c'est qu'il y en a d'autres. Je pense à la recrue Jeremiah Owusu Karamoah. Karamoah, et ouais, on va l'avoir. J.O.K. pour les intimes. Écoute, il est formidable depuis le début de la saison. Tu sais, c'est secondaire de petit format qui peut être excellent en couverture de passe. Il y a déjà plusieurs passes rabattues. Il y a 29 plaqués. Je pense que c'est le meneur au sein de l'équipe. Tu sais, je comprends qu'on parle beaucoup des pertes à l'attaque, les porteurs de ballon, puis Mayfield qui joue avec un bras. Mais c'est une perte importante aussi du côté de la défense. Donc, j'y vais avec les Broncos, mais effectivement, là, qui sont en chute libre, eux autres aussi. Là, donc, rien ne me surprendrait.
Un match qui est intra-division entre les Jets et les Pats. Les Pats qui sortent d'un match assez fou contre les Cowboys, là, qui ont perdu, mais est-ce que c'était le sort qu'ils méritaient?
Bye. Oui, écoute, je dirais que oui. Là. Soit tu as ce que tu mérites. Dans le cas des Pats, ils sont toujours dans les matchs. C'est des matchs très serrés hein, cette année, peu importe. Le seul match qui a été facile, c'est contre les Jets. Est-ce que ça va être encore le cas? J'ai l'impression que oui, ça reste Bill Belichick qui va avoir un bon plan de match pour la jeune recrue des Jets qui sortent d'une semaine de congé. Ça va les aider un peu. Je m'attends à un match plus serré. Je pense que les Pats vont en faire assez pour remporter cette deuxième victoire-là face aux Jets.
Oui, même chose pour moi. Les Pats, effectivement, c'est serré chaque semaine. Puis c'est spécial quand même. Leurs deux seules victoires cette année à date, c'est contre les Jets, comme Jean mentionnait, puis contre les Texans, de peine et de misère. On parle pas d'une grande cuvée là, des Patriots. mais à chaque fois, sont compétitifs. Ils ont été compétitifs contre les Bucks.
C'est ça, ils pourraient avoir une meilleure fiche parce qu'ils ont été, il y a eu des matchs très serrés, mais c'est pas le cas.
C'est une question là, de progression, d'apprentissage aussi de Mac Jones. Puis je pense que c'est l'idéal quand tu es en stade de progression comme ça là, d'affronter les Jets.
Les Packers sont favoris par 10 points contre une équipe de Washington là, qu'on avait des grands espoirs, mais qui se matérialise toujours pas.
Ben, c'est la défensive là, qui répond pas à l'appel. Quoique, la semaine passée contre les Chiefs, ils ont créé 3 revirements en première demi, mais l'attaque a généré juste une avance de 13-10 avec 3 revirements. Tu sais, ça aurait pu tourner là, beaucoup plus que ça. C'est une équipe qui continue de se chercher, puis je vois pas comment elle va se trouver contre les Packers. Si tu éprouves des problèmes défensifs, puis que tu t'en vas affronter Aaron Rodgers puis son arsenal...
Au Lambeau Field.
Ouais, c'est ça, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. L'écart me paraît peut-être grand un peu, mais victoire Packers quand même.
Ouais, j'ai victoire des Packers également. Je vois pas de surprise là. Puis même si, exemple, les Packers ont pas sorti nécessairement un grand match face aux Bears, tu vois qu'ils sont difficiles à battre puis qu'ils sont quand même équilibrés. Puis la défensive, en début de saison, qui jouait pas nécessairement du gros football, commence à beaucoup mieux jouer. Également là, avec les Packers. Donc, c'est pas de bonne augure pour Washington. Je vois les Packers qui couvrent pas nécessairement le spread, comme Steph a mentionné, mais j'ai exactement la même prédiction.
Bon, Packers. Le meilleur match de la fin de semaine, les Chiefs contre les Titans, ça, c'est pas un match facile à prédire. Là. Au Tennessee, à Nashville.
Non, parce que c'est très possible que Derrick Henry déchire cette défensive-là, encore une fois. C'est pas original de dire ça, mais c'est la recette des Titans, puis il faut qu'ils s'en tiennent à ça.
Mais les Chiefs sont favoris par 4 points quand même à l'étranger. Ouais.
Ben, parce que c'est les Chiefs, puis parce qu'ils ont
comme beau si être personne n'a perdu la foi encore malgré leur...
Non, exact, c'est ça. C'est comme si on se dit, c'est les Chiefs, ils vont rebondir. Ils sont 3 victoires, 3 défaites, mais ils vont finir par, à un moment donné, trouver leur air d'aller. J'y vais avec les Chiefs. Je sais que c'est un peu à l'encontre de ce qu'on a dit sur Derrick Henry qui domine toute sa compétition. Mais il ne faut pas oublier que les Titans, ça reste malgré tout un club inégal d'une semaine à l'autre. Il n'y a pas de constance dans leur jeu. Ils sortent une grosse, grosse performance contre une grosse équipe. La semaine d'après, ils peuvent être très flats.
Ouais, on pourrait dire autant des Chiefs, là, mais je te comprends.
Oui, c'est vrai. Mais genre, j'y vais avec les Chiefs.
Je vais y aller avec les Titans. Écoute, tu regardes l'attaque, pas l'attaque, la défensive des Chiefs est 27e dans la NFL pour l'attaque, pour contrer l'attaque terrestre adverse. Puis je trouve qu'ils sont particulièrement mauvais, honnêtement. Là. Tu sais, c'est, ils sont 27 pour être quasiment dernier dans mon cas. Je vois pas comment ça va se réparer en une semaine. Je sais que des fois, ça, les entraîneurs ont des bons plans de match, là, mais je vois difficilement comment tu peux régler tout ça. Puis là, aller affronter les Titans à la main, dans leur domicile avec Henry qui est tout feu, tout flamme. L'attaque, écoute, je vois difficilement comment ils vont être en mesure de les arrêter. Tu peux me dire que c'est le contraire, va être vrai aussi parce que la défensive des Titans, c'est pas nécessairement la meilleure. Mais ils vont quand même montrer des choses face aux Bills.
Ils ont eu de l'émotion.
Ils ont joué avec émotion, ils ont bien plaqué. S'ils font ça, puis dans le cas de Mahomes, il a encore lancé une grenade la semaine passée, ce qui n'était pas son cas avant. Là. S'il commence à faire un ou deux revirements par match, ben ça va aider l'autre équipe. Ouais. Donc je vais prendre les Titans dans ce match-là.
Les Bengals contre les Ravens à Baltimore.
Ah, tu vois, tu disais Packer, Titans Chief que c'était le meilleur match de la fin de semaine. Moi, j'ai le goût d'y aller avec celui-là.
Ouais,
Ravens Bengals, c'est du bonbon actuellement parce que c'est plus les bons vieux Bengals. Je sais que les Ravens ont complètement dominé cette rivalité-là dernièrement, mais tu te présentes pas contre le même club. Je trouve que les Bengals sont fougueux. Quand ils perdent, c'est de très peu là, cette saison. Ils mangent pas de volée. Ils sont très compétitifs contre les gros clubs, puis ils écrasent les petits clubs comme ils devraient le faire. Là. Il n'y a pas de mauvais match de leur côté. Là. Puis Joe Burrow, qui est en voie de lancer 39 passes de toucher, c'est quand même pas rien. Il va affronter une défensive là, qui est quand même assez exotique. Là. Les Ravens qui amènent jamais les mêmes looks, qui changent leur formation au dernier moment. Il va en voir de toutes les couleurs, Burrow, mais je pense qu'il est rendu là déjà dans sa progression. pour donner une petite frousse aux Ravens. J'irai pas avec une victoire des Bengals, là, mais ça devrait être du bonbon jusqu'à la fin, ce match.
OK.
Moi, c'est un match qui est important pour les Bengals parce que je veux vraiment voir si... parce que je trouve quand même que leur opposition...
Sont prenables, là, les Ravens.
Oui, ils sont prenables. Puis dans le cas des Bengals, je suis pas sûr qu'ils ont eu tant que ça de la vraie opposition depuis le début de l'année. Là, ils ont une grosse commande. Je veux vraiment voir c'est quoi le caractère. Je veux voir qu'est-ce qui va ressortir des Bengals. Ils jouent très bien défensivement. C'est ça, pour moi, la grande surprise, je trouve, avec les Bengals.
Ouais.
Je vais prendre les Ravens serrés également.
Ah, OK. Je pensais que tu t'en allais. De façon dont tu parlais, je pensais que tu t'en allais.
Non, je veux quand même voir qu'est-ce qu'ils vont avoir de l'air. Mais de là à leur faire confiance pour renverser les Ravens dans un match de division important à Baltimore.
Ouais.
Je suis pas suicidaire non plus.
OK. Les Panthers contre les Giants.
On parlait des clubs qui ont bien des bobos, là. Les Giants en font partie, là. T'sais, il y avait à peine un receveur qui commençait à éclore dans leur attaque, là. Kadarius Toney, la recrue. Ouais. Lui, tu lui mets le ballon entre les mains puis il y a quelque chose qui va arriver, là. C'est tout simplement spectaculaire de le voir. Mais il s'est encore blessé, la semaine passée. C'est pas trop s'il va jouer. Puis les receveurs, c'est à peu près tout pareil. Soit ils jouent, mais sont maganés, sont à moitié sur une patte, ou ils jouent pas. Saquon Barkley, on sait pas encore. Trop d'incertitudes. Donc, les Panthers vont retrouver le chemin de la victoire.
Écoute, moi, j'ai une question aussi. Comment le carrière Jones, après avoir subi une méga commotion la semaine d'avant, était partant cette semaine? Ça m'a pas rentré dans la tête, ça, messieurs. Mais écoute, c'est des miracles de la médecine moderne.
Sans doute.
Sans doute. Je vais prendre les Panthers qui vont remporter ce match-là exactement pour que les mêmes points que Stéphane.
Okay.
Un club un peu magané là, à New York.
Les Falcons qui donnent une chance aux Dolphins de se reprendre de leur match contre Jacksonville.
Ben oui, puis je continue d'y croire malgré tout. Pas que les Dolphins vont sauver leur saison, il est peut-être trop tard. Mais ça, c'est un match qu'ils doivent absolument aller chercher. Écoute, ils ont des gros problèmes, on le disait tantôt, aux lignes à l'attaque, mais t'affrontes un front défensif qui est clairement pas redoutable, là, Atlanta. S'il y a un match où tu peux asseoir tes bases un peu puis contrôler la ligne de mêlée, c'est bien celui-là. Sinon, il y en a pas beaucoup d'autres comme ça qui arrivent sur un plateau d'argent dans la NFL. J'y vais avec les Dolphins. Je suis pas forcément confiant, là, mais honnêtement, s'il y a un match qu'ils peuvent aller chercher contre une défensive qui est clairement pas intimidante, là, c'est celui-là.
Je suis Stéphane un peu dans son raisonnement, mais je vais quand même prendre les Falcons dans mon cas. Ce qui explique un peu ma décision, c'est ça paraît dans la NFL souvent quand tu as une semaine additionnelle pour te préparer contre une équipe. Les Falcons sortent d'une semaine de congé.
Surtout une équipe qui revient de Londres, en plus.
Puis, exact.
Ouais, c'est un point qui me fait peur. Là.
C'est l'autre point que je m'en allais. Ils arrivent, eux, avec une semaine courte là, pour se préparer. Moi, je vois les Falcons qui l'emportent.
Puis surtout, ils vont avoir ruminé leur défaite pendant deux jours de plus. Là.
C'est okay. Un match que, par contre, j'aime deux jeunes alliés rapprochés qui, je trouve, qui sont très ouais, plaisants à regarder. Ouais, exact. C'est tout. C'est ce qu'il y a à regarder.
OK, les Lions, on en parlait tout à l'heure, s'en vont à Los Angeles se faire planter contre les Rams.
Arrête, ça va être la revanche terrible de Jared Goff. Non, j'irai pas jusque-là. Non, ça va être effectivement, ça devrait être très facile pour les Rams. Je pense que si les Lions sont le moindrement compétitifs, faut le voir comme un échec là, du côté des Rams parce qu'ils ont le rouleau compresseur en place pour piler dessus.
Écoute, c'est bien pour les Rams. Je savais pas qu'il y avait trois semaines de congé parce qu'ils affrontaient les Giants la semaine passée. Le pogne des trois. Donc, c'est quand même bien d'avoir ça dans le calendrier. Victoire des Rams. Facile. Je vois difficilement comment les Lions peuvent faire le miracle. Ils ont quand même joué des bons matchs à certains moments cette année.
Contre les Ravens, entre autres.
Oui, exact. Mais c'était à la maison. Là, aller à Los Angeles brasser les Rams puis leurs fronts qui sont monstrueux. J'ai un peu de difficulté avec ça.
Les Raiders, qui sont une victoire, aucune défaite sans John Gruden, reçoivent les Eagles.
Oui, on en parlait la semaine passée dans nos prédictions. On disait des fois un changement d'entraîneur quand le climat est devenu lourd à cause d'une situation toxique. Ça peut donner des ailes. Puis les Raiders sont sortis vraiment fort contre les Broncos. Là, ils affrontent une défensive Philadelphie là, qui n'est pas nécessairement apte à contrer le jeu aérien des Raiders. Là, j'y vais encore avec une victoire des Raiders, une deuxième de suite.
Moi aussi, je vais y aller avec les Raiders. Dans le cas des Eagles, faut mentionner que Lane Johnson devrait revenir. Ça va leur donner un coup de main là, sur la ligne à l'attaque.
Ouais.
Mais ça sera pas suffisant. Je vois les Raiders qui l'emportent. Ça va être le fun aussi de pouvoir observer ça va être quoi l'accueil des fans des Raiders sans Gruden. On sait qu'il était quand même très aimé. Mais je pense que ça va être quand même. Ça reste que t'es partisan d'une équipe et pas d'un coach.
Les Cards qui jouent contre les Texans de Houston en Arizona. Oui.
Écoute, si dans le cas des Cards, là, honnêtement, là, on n'en parle pas assez. Hein. Ils ont renversé les Rams à domicile, les Browns qui quand même représentent une bonne équipe, je pense. Ils ont eu beaucoup d'adversité. Puis, écoute, ils traversent les équipes. Il n'y a personne qui les arrête défensivement. Ils ont une attaque qui...
Plus le match avance, plus ils deviennent... ils s'adaptent à l'autre équipe. C'est impressionnant. Exact.
Puis Kyler Murray joue du gros football, honnêtement. Donc, victoire des Cards qui vont retrouver leur entraîneur-chef également.
Favori par 16 points, Steph.
Ouais, c'est ça. Il y a pas grand chose.
Au cas où tu pensais mettre les Texans gagnants.
Il y a pas grand chose à ajouter là-dessus. Tu sais, j'aime ça parler de ça des fois, mais la seule question dans un match comme celui-là, tu viens de le mentionner, Jean-Nic, c'est l'écart. Est-ce qu'ils vont combler le 16 points? Je pense que oui. C'est une équipe, là, en ce moment, qui tout roule à merveille. La défensive aussi, là, on a tendance à l'oublier parce qu'on parle beaucoup de Kyler Murray avec raison, là, mais il n'y a pas grand faiblesse du côté des Cards pour l'instant. Je vois pas comment les Texans vont mettre beaucoup de points contre eux.
Les Bears contre les Buccaneers. Eux aussi, on prévoit un blowout de 13 points, presque deux touchés d'avance.
C'est là où j'ai une certaine hésitation. Là, j'y vais avec les Bucs. Mais rappelez-vous, l'an passé, quand même, c'est un match où ils s'étaient fait surprendre les Buccaneers par les Bears. Il y a une défensive là, du côté des Bears qui peut donner du trouble à Tom Brady là, quand même. Ils l'ont fait l'an passé, pourquoi pas cette année? Mais au final, il y a tout simplement trop d'armes du côté de Tampa. Puis on se rappelle que les Bears, au moment où ils avaient battu les Bucs l'an passé, à la surprise de tous, c'était au moment où la chimie avait peut-être pas encore nécessairement opéré là, entre Tom Brady et ses nouveaux receveurs à Tampa. On travaillait, c'était du rodage encore un peu cette attaque-là. C'est plus le cas en ce moment. Donc, je pense que les Bears peuvent donner une opposition, mais j'y vais quand même avec une victoire des Bucs là, parce que le scénario a changé depuis un an.
Ce qui est difficile à imaginer aussi, c'est le fait que les Bucs donnent tellement rien au sol. Donc, tu sais, tu dis Justin Fields, faut qu'il aille de l'aide. Là, il n'y en aura probablement pas. Là, tout va reposer sur lui. Il faut qu'il soit en mesure de battre Tom Brady, même si la défensive des Bears joue bien. Écoute, je ne vois pas ça arriver. Là. Je vais prendre les Bucs. C'est juste un peu trop. Puis honnêtement, je veux parler aux commentateurs défensifs des Bucs. Qu'est-ce qui fait que cette défensive-là, oui, ils ont des bons joueurs, mais comment ils arrêtent le sol à chaque match?
Incroyable.
C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment, vraiment impressionnant.
OK, les Colts s'en vont jouer à San Francisco. Les Colts qui ont une bonne vibe là, autour de Carson Wentz.
Oui, mais elle n'est pas facile celle-là, honnêtement. Moi, je l'ai reviré pas mal, mais j'ai aimé ce que j'ai vu des Colts, pas seulement avec leur victoire le facile contre les Texans, mais la semaine d'avant contre les Ravens. Je pense qu'il aurait mérité meilleur sort que ça.
Oh oui, tout à fait.
Donc, il se passe de belles choses tranquillement, pas vite. Tu sais, Wentz, comme tu le disais, qui commence à prendre ses aises, mais surtout, la pièce maîtresse, là, c'est en train de devenir le porteur de ballon Jonathan Taylor.
Quelle
vitesse!
Il a
été vraiment efficace. Là. Il a été très dangereux contre les Texans. Vous allez me dire, ouais, c'est les Texans. Quand même, là, il est capable de faire des dégâts, ce gars-là. Puis les Niners, on a tendance à les voir un peu comme les Niners de 2019, tu sais, la défensive contre la course dominante, mais c'est plus le cas là, actuellement. Ils donnent au-dessus de 118 verges au sol par match. Taylor pourrait s'amuser dans ce contexte-là. Moi, je vais y aller avec une victoire des Colts.
Oh, OK. Steph, est-ce que tu peux me... j'ai regardé, mais j'ai pas vu de... Est-ce que c'est sûr que c'est Jimmy Garoppolo qui va être le carrière des...
C'est pas encore déterminé.
Ben, c'est pas encore déterminé à 100%, mais écoute, il pratiquait depuis le début de la semaine, tandis que Trey Lance a raté des entraînements ou des portions d'entraînement. Là, fait que ça s'enligne pour être Garoppolo, mais au moment où on se parle, il n'y a pas de certitude.
Bon, écoute, moi, il faut que je rattrape Steph, fait que je vais...
ça va commencer déjà, ça, la semaine 7.
Ouais, exact. Je vais y aller. Écoute, je penchais pour un petit peu pour les Colts, mais il y a deux points que j'aime bien, là. C'est le fait que, justement, les Niners sortent d'une semaine de congé. Je pense que ça les a aidés. Puis, des fois, t'aimes pas ça, avoir ta semaine de congé très tôt quand t'es entraîneur dans la NFL. Dans le cas des Niners, je pense que c'était le meilleur moment. Ça allait pas tant bien. Ils étaient un peu maganés. Je pense que ça va les aider. Puis ils vont en faire assez, ils vont arriver avec un bon plan de match justement pour stopper Taylor. Les Niners vont l'emporter.
Les Saints et les Seahawks s'affrontent pour le Monday Night.
Ouais, là, c'est plus du tout la même affaire. Là. Les Seahawks, veulent pas, là.
Ben, même les Saints, là, ils ont de la difficulté. Ils ont une bonne fiche, mais ils ont de la misère à accumuler des verges, surtout par la passe.
Ouais, c'est ça, tu sais, on sent que l'attaque n'est pas au beau fixe. C'est plus le métronome que c'était avant avec Drew Brees. Tu sais, c'est des montagnes russes. Là, t'as un bon corps, un mauvais corps. C'est toutes sortes de situations complètement imprévisibles avec eux. Mais ce qui est prévisible du côté des Seahawks, c'est que leur attaque régresse beaucoup avec Geno Smith. Puis les Saints qui montrent quand même une bonne défensive. J'ai pas le choix dans ce match-là d'y aller avec les Saints, même si c'est un match en prime time, à Seattle, c'est un contexte historiquement qui joue clairement en faveur des Seahawks. Là, ça pèse dans la balance. Mais sans Russell Wilson, pour moi, c'est pas les Seahawks.
Moi, j'ai même l'impression que ça va jouer contre les Seahawks et Geno Smith. Là. Ça va mettre trop de pression sur Geno Smith, mais qui est même s'il est un vétéran, là, il a jamais été très bon avec la pression.
Ça se peut qu'il se fasse lancer des tomates.
OK, Jean. Jean est disparu. Bon, on va se dire que Jean prend les Seahawks. Parce que lui, depuis le début de l'année, il dit que les Seahawks vont connaître une mauvaise année, alors on va y donner. OK, restez là. Après la pause, on va aller au bar se retrouver pour nos clients de la semaine. Bougez pas. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. On est à la zone payante en compagnie de Stéphane Calorette et de Jean Carrier. OK, on y va les boys tout de suite avec la chronique au bar, si vous voulez bien, parce que cette semaine encore, nous avons à avoir des clients dans cette taverne de la zone payante. Steph, qui t'en va au bar, toi, cette semaine?
Hey, ça me fait bizarre cette semaine parce que faut que je donne une tape ses doigts à quelqu'un de la confrérie journalistique. Ouh. J'aime pas ça faire ça, ça me fait mal au cœur, les gars. Écoute, j'aime pas ça quand les gens critiquent les journalistes, les médias à outrance, mais il faut que je le fasse. Ça m'a vraiment surpris. Adam Schefter, qui est probablement le journaliste le plus redoutable dans NFL, c'est lui qui sort tous les scoops tout le temps avant tout le monde. Il est vraiment formidable. C'est une machine, honnêtement. Je suis pas convaincu que ce gars-là dort la nuit parce qu'il est vraiment
au-dessus. Ou il dort avec son téléphone dans les mains.
Oh, oui, ça, c'est clair que ça doit vibrer là, sur un moyen temps. Cela dit, dans tout le scandale de l'équipe de Washington, de John Gruden, les 650 000 emails qui ont été épluchés, il y a eu des petites trouvailles sur Schefter. Rien là, de moral comme John Gruden dans son cas, mais plutôt éthique. Écoute, ils ont découvert que Adam Schefter envoyait des emails au président de l'équipe de Washington, Bruce Allen, pour lui faire valider un reportage écrit qu'il présentait sur le site d'ESPN. Puis là, il est copain avec lui en lui disant « Bonjour Bruce, monsieur l'éditeur, assure-toi que ce que j'écris, c'est correct puis que ça fait du sens, tout ça. » Écoute, on voit pas ça, là, dans le milieu.
Pré-validation, là.
On voit pas ça, là, les gars, dans le milieu, honnêtement. Là. Moi, c'est une pratique que je déplore. Tu sais, envoyer ton reportage à quelqu'un en lui disant « Tiens, valide-moi ça, voir si tout est beau. » Tu peux faire valider une virgule. « Écoute, je suis pas sûr de si ou ça. C'est-tu vraiment ça que tu voulais dire? » Oui, là, OK. Mais de là à l'envoyer comme ça, puis à le faire éditer par un grand patron d'une équipe de la NFL, il y a peut-être un lien qui est un peu trop incestueux. J'aime pas trop ça. Tu sais, Schefter, je continue de le respecter, là, puis je pense pas qu'il devrait être démis de ses fonctions ou quoi que ce soit. On capote pas, là, les gars. Là, je pars pas sur un scandale qui en est pas un. C'est juste que, comme journaliste, je trouvais ça important là, de le mentionner. Tu sais, ça a passé un peu sous le radar. On en a parlé un petit peu, là, mais très, très peu, là, somme toute. Parce que John Gruden, avec raison, a pris toute la place, là, parce que ses propos étaient clairement déplacés. Mais fallait le souligner. Donc, Schefter, écoute, là, c'est rien de grave. Là. Une petite bière tranquille au bord. On réfléchit, puis on recommence pas.
Johnny Boy?
Oui, ben écoute, avant les problèmes technologiques, puis je tiens juste à dire que je vais prendre les Saints dans le match face aux Seahawks. Moi, j'envoie le frère de Pat Mahomes au bord.
Ben oui.
Jackson Mahomes, qui est très populaire sur TikTok. Dieu sait que j'aime tellement TikTok,
les gars. Ben oui, je te vois danser tout le temps là-dessus. Je me dis, coudonc, il travaille-tu?
c'est ça, il fait des petites danses maintenant parce qu'il va voir son frère dans les matchs, dans les stades de la NFL. Et j'en vois également l'équipe de Washington au bord. Je vais l'expliquer après. Jackson Mahomes, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une danse sur son TikTok. Puis il l'a fait sur le numéro 21 qui est sur le terrain, qui est évidemment dédié à Sean Taylor, Sean Taylor, le maraudeur d'exception. Washington avait, qui est mort évidemment là, dans un homicide, en pleine carrière, en pleine gloire. Quel manque de respect, puis pas de respect, puis pas de savoir où ce que t'es, puis qu'est-ce que ça représente pour les fans de Washington. Puis dans le cas de Sean Taylor, les gars, je me rappelle juste, tout le monde se rappelle un peu le Pro Bowl où ce qu'il avait, où il avait fait un homicide sur le batteur. J'imagine, puis un joueur qui jouait intense à tous les moments, toutes les secondes d'un match, puis voir ça d'en haut, puis voir un clown qui s'amuse.
Mais ceci étant dit, explique aussi pourquoi il était
oui,
là.
Oui, ça s'en vient. Mais je fais juste imaginer Sean Taylor qui est en haut, puis il dit, hey man, lui, si j'aurais pu le visser présentement, je l'aurais fait.
Je pense que ça serait donné un bon élan.
Exact. Et Jackson Mahomes a quand même une excuse, parce que c'est quand même l'équipe de Washington qui ont placé les Mahomes là. Mais pourquoi? C'est-à-dire, je comprends pas. Puis il y a comme, autour du numéro, ils ont mis vraiment une barrière. Là. Il y a une chaîne qui empêche les gens d'aller sur le numéro. Pourquoi
ils ont fait avoir... un petit enclos là, pour
exact,
les accueillir.
Enclos. Puis pourquoi avoir placé le frère de Pat Mahomes à l'intérieur de l'enclos? Je comprends pas. Là. C'est Washington qui ont permis ça. Puis lui, pas trop brillant non plus, il dit « Wow, je vais faire un TikTok sur le numéro ». Tout ce monde-là va au bar, les gars. Là. Je suis vraiment pas apprécié. Ce que je leur donne comme drink, c'est la mort de l'après-midi. C'est le nom du drink. C'est de l'absinthe, champagne et sirop. C'est tout simplement ça. Et jusqu'à temps que mort s'en suive pour tout le monde. Ça, je trouve que ça fait de bien avec Sean Taylor. Donc, that's it.
OK, moi, je vais envoyer quand même le manager du Chipotle de Nashville là, qui est responsable du restaurant qui a intoxiqué AJ Brown avant son match et qui a failli pas jouer.
Hey, je me demandais où tu t'en allais.
Et ça, c'est un pauvre gars qui devait pas avoir hâte que les grands boss de Chipotle passent après qu'AJ Brown dit qu'il avait mal filé pendant 2 jours à cause d'un burrito du Chipotle de Nashville. Pauvre gars, je vais l'envoyer prendre un... Y a-t-il un drink là qui est un peu... peut faire oublier là, un knockout, là, mettons, là, un petit shooter knockout. Là.
Bah, écoute, tequila, c'est toujours solide, Jean-Nic. Là.
Surtout qu'on est dans la thématique mexicaine, ça fait très bien.
C'est vrai qu'un petit verre. OK, merci, messieurs. Merci à vous d'avoir été là encore à l'écoute cette semaine. Bonne semaine 7 de la NFL et on se retrouve la semaine prochaine. Bye.